Bonsoir tout le monde. Ici Bromar Rahman de CFAC FM. Je suis ici à Gatineau pour le J Animé 2026. Et pour mon première entrevue cette fin de semaine, j'ai avec moi un invité très spécial, le président de Gunpa Montréal. Bonsoir.
Enchanté, merci. Je me présente William Sidavong. Je suis actuellement le président du club Gunpla Montréal. On est un club spécialisé en mode réduit de Gunpla ici au Canada. Donc, qu'est-ce que nous autres on fait? Mais on est là pour promouvoir le hobby du modèle réduit et du modélisme, mais à travers d'une twist un peu plus asiatique, si on peut dire.
OK, donc le gunpla, qu'est-ce que c'est? D'abord, expliquer ça.
Donc, qu'est-ce que le Gunpla? Ben, c'est vraiment simple. C'est deux mots, Gundam Plastics. Donc, ce sont des modèles réduits basés sur des robots de la série Mobile Suit Gundam, que ça fait plus que 45 ans qu'ils existent. Donc, tu sais, on parle vraiment des modèles réduits, genre des robots de la vieille série télé, et que là, avec les nouvelles séries qui sortent au fur et à mesure, ben là, on va voir des nouveaux kits et aussi des autres branches comme telles qu'on va voir aussi des véhicules, des avions et aussi des bateaux de la même série.
Donc, Gunpla Montréal, ce qui est votre organisation, quelle est l'histoire de cette organisation?
Donc, nous autres, on est partis à partir dans les coins de 2014-2015. On était juste un groupe d'amis, on était tous des fans de la série Mobile Suit Gundam. Et là, vu qu'il y avait des kits qui existaient, on voulait créer de quoi de spécial pour le monde qui est intéressé dans cette série-là. La seule affaire, c'est qu'auparavant, ce genre de kit-là était impossible à trouver parce que ça se vendait juste au Japon. Donc là, mais nous autres, avec le travail des contacts qu'on a eus, on a pu montrer c'est quoi ce hobby-là. Et c'est pas juste montrer juste au monde en général, c'est aussi faire des ateliers au public pour montrer c'est quoi vraiment le hobby du modèle réduit parce qu'on trouve que ça aide à travailler le côté motrice de la personne. Quelqu'un qui aime ça travailler dans le manuel, il va pouvoir aimer ça. Ça a comme un passe-temps, exactement.
Moi, je j'ai beaucoup d'amis qui sont des ingénieurs, par exemple, là, qui ont un passe-temps ils aiment ça, tout ce qui est dolls, gunpla, ils s'amusent à bricoler avec ça. Et donc, c'est quelque chose qui colle assez bien avec leurs propres intérêts également. Vous parlez des contacts au Japon, il y a un moment. Comment est-ce que ça s'est fait exactement? Parce que ceux qui ont déjà fait des affaires au Japon savent que tu sais, c'est un monde différent. C'est interagir avec des contacts au Japon. Comment est-ce que vous avez entamé disons, toute cette procédure-là pour pouvoir apporter des gunpla ici au Canada?
Donc, vraiment pour de vrai, nous, notre intérêt à ramener le Gunpla au Canada, ça a vraiment comme donné un peu l'idée, par exemple, aux géants à Bandai, qui est la compagnie qui crée ces modèles réduits-là, à les ramener au marché ici en Amérique du Nord. Et là, en plus de ça, dans les alentours de 2013, il y a eu cette compétition internationale qui s'appelle le GBWC, le Gunpla Builder World Cup, que auparavant, c'était juste les États-Unis qui incluaient Amérique du Nord. Donc, États-Unis, Mexique, Canada étaient dans sa propre branche. C'est juste que là, nous, on voulait montrer, on voulait que les Japonais puissent explorer ce marché-là en Amérique du Nord de manière individuelle. Donc, on a séparé la division Amérique du Nord pour avoir le Gunpla spécifiquement au Canada. Donc, on a notre propre marché. Les Américains ont leur propre marché et les Mexicains aussi ont leur propre marché. Donc, qu'est-ce que ça a causé? Donc là, on est capable d'avoir des kits qui sont vraiment abordables dans le marché. Le monde sont capables d'avoir leur kit préféré et les compétiteurs sont capables d'avoir leurs pièces qu'ils veulent quand ils veulent faire, par exemple, des créations artistiques.
Donc, rentrons un peu dans les chiffres. Vous savez, les gens pensent souvent, quand je parle de chiffres, que c'est quelque chose de plate. Mais moi, je suis quelqu'un qui est passionné par ces affaires-là, les chiffres d'affaires, etc. Si quelqu'un a déjà eu un passe-temps de gunpla et ce genre de passe-temps-là, ça coûte cher. C'est pas un passe-temps qui est, disons, on parle des gens que je connais qui ont ce passe-temps-là, ce hobby-là, ils dépensent beaucoup, beaucoup d'argent là de ça. Donc, la première question que je voulais poser, d'abord, est-ce que c'est que les produits eux-mêmes coûtent cher ou est-ce que c'est le passe-temps qui fait en sorte que les gens dépensent beaucoup d'argent en arrière de ce produit-là? Ça, c'est ma première question. Ma deuxième question pour vous, c'est quels sont les chiffres d'affaires au Canada, aux États-Unis et on parlait d'abord de ces deux marchés-là, justement, par rapport, par exemple, au Japon où le Gundam a émergé.
Ouais, donc si on parle un peu genre en termes de prix en termes de prix, c'est sûr que tout dépendant le type de kit que le monde achète, Il y en a qui ont coûté cher, il y en a qui vont coûter moins cher.
Mm-hmm.
Mais si on fait une moyenne générale, c'est des kits qui tournent autour de 30 à 40 $.
Mm-hmm.
Ça, c'est si on parle la gamme générale. Si on prend quelque chose de plus dispendieux, quelque chose qui a beaucoup plus de détails, donc on parle de kits qui ont des pièces électriques, on parle des pièces qui ont des pistons, qui ont un système d'hydraulique. Tu sais, littéralement, il y a du monde qui achète des kits puis qui vont faire littéralement un robot 100% articulé avec une télécommande.
Mm-hmm.
Tu sais, ça, on parle des kits qui vaut au-dessus de 1000 $, mais pour le peuple, pour le monde général, mm-hmm. ça tourne autour de 30-40 $. Puis la raison pourquoi le monde, on dit que le monde dépense autant, parce que très souvent, le monde qui sont dans ce hobby-là, mais c'est aussi des collectionneurs.
Mm-hmm.
C'est comme si chez quelqu'un qui aime, par exemple, une série spécifique, disons Zeta Gundam, bien, cette personne-là, mais il va acheter tout ce qui est relié à cette série-là. Donc, c'est normal qu'il va lancer de l'argent pour essayer de collectionner toutes ces séries-là. Mais tu sais, c'est normal. Comme n'importe qui collectionne des jouets, n'importe qui collectionne des livres, il veut avoir des pièces spécifiques dans sa collection parce que, tu sais, on se cachera pas, on est des humains, on aime ça, tout ce qui nous rend contents.
Mmh. Dans Gunplay, il y a Gundam Playmode. Donc, parlons un peu du côté Gundam. Mmh. Selon votre expérience, votre expertise dans le domaine, en tant que quelqu'un qui est un collectionneur de Gunpla et qui est président d'une association de ce genre, à travers les années, il y a beaucoup de séries de Gundam, on le sait. Quelle est la série Gundam qui est le plus populaire, qui a le plus de Gunpla qui sont achetés et circulés dans les collections?
Oh, ça, c'est une très bonne question parce que ça, c'est vraiment... Ça, on peut dire que c'est vraiment de région en région.
Mm-hmm.
Si je prends, par exemple, au Japon, les séries qui vont se vendre les plus populaires, ça va être ceux de la série Universal Century, Zeta, Double Zeta, Chancellor mm-hmm. Attack et aussi Seed Destiny. Si on voit en Amérique du Nord, nous autres, ça va être la série Gundam Wings et Gundam mm-hmm. Seed. Parce que ça a été les séries qui étaient arrivées ici en Amérique du Nord en début de, en 2000.
Oui.
Et c'est qu'est-ce que, il y a beaucoup de personnes ont été exposées. Donc, beaucoup de personnes vont reconnaître les kits de ces séries-là. Donc, juste pour donner un exemple, là, j'ai un des membres de mon club. Lui, c'est un gros fan de Wings. Puis, il est en train de se construire une armée chez lui.
Bon.
Comme une de ses armées, ben, c'est le groupe de guérillas qui viennent d'Arabie Saoudite. Ils sont 40 Gunpla. Il les a achetés, les 40. Il est en train de les construire un après l'autre.
Il est quoi? Il est milliardaire?
Ben, pour être honnête, je sais pas où c'est qu'il vient cet argent-là, mais c'est I'm not saying anything. Effectivement, moi, je travaille genre comme n'importe qui. J'ai un job normal.
Et vous faites quoi dans la vie?
Ah, mais moi, je suis répartiteur. Je travaille en logistique.
OK, ouais. Est-ce qu'il y en a qui s'endettent pour des Gunpla?
Pardon?
Qui s'endette pour des Gunpla?
Je sais pas s'il y a du monde qui s'endette. Probablement qu'il y a du monde qui s'endette dans des Gunpla. J'ai pas vraiment connu de monde qui sont tombés dans ce gouffre financier-là. On essaie tous de pas tomber dans ce gouffre financier-là. On a d'autres factures à payer. Le loyer commence à coûter cher ici.
Oui.
Et l'épicerie aussi commence à coûter cher. Fait que, on dépense, mais avec limite, comme on dit.
Vous, quelle est votre série Gundam préférée?
Oh, ça, c'est une bonne question. Ça, c'est une très bonne question. Moi, j'ai grandi avec Gundam Seed. Pour moi, Seed, j'ai un côté nostalgique avec ça. Mais si je devais prendre une série spécifique, ça serait Universal Century, spécifiquement le film Charge Gunner Attack. La raison pourquoi, parce que mon premier Gunpla, c'était le New Gundam, qui est le Gundam principal de ce film-là.
Mm.
J'ai commencé ça, j'ai construit ce kit-là il y a 10 ans. Il est encore dans ma vitrine. Il n'est pas nettoyé. Il est encore sale. Il y a des petites traces de plastique. Il y a des masques de peinture qui étaient mal faites. Mais c'est mon premier kit, puis moi, je l'aime parce que ça me rappelle où j'ai commencé. Et tu sais, on compare aujourd'hui, mes talents ont évolué,
mm-hmm.
puis je fais des kits de compétition. Donc, tu sais, je fais vraiment tout un travail de peinture, de modelage mm-hmm. que je travaille par moi-même. J'ai même mes propres coups signatures que je fais dans mes projets.
Justement, parlons un peu du côté compétitif. On parlait plutôt, vous avez mentionné le Gundam World...
Le GBWC,
oui, c'est ça. Quels sont les, disons, pour quelqu'un qui connaît pas ce milieu-là, ça peut paraître étrange. Ok, comment est-ce que on fait pour qu'est-ce qu'on compétitionne exactement? Qu'est-ce qui est jugé? Comment est-ce que ça fonctionne? Donc, explique un peu c'est quoi la procédure pour ces compétitions-là, pas juste le GPW, mais aussi les compétitions plus locales et plus régionales. Comment est-ce que vous faites pour évaluer, par exemple, la construction des Gundam? Et la procédure que vous suivez pour construire les Gundam et également, comment est-ce que vous faites pour, après, juger, évaluer un Gundam et sur quels critères est-ce qu'on décide que ce Gundam-là ou celui-là est le meilleur Gundam.
Mm-hmm. Ouais, ça, pour de vrai, ça, c'est vraiment facile. C'est vraiment simple à dire. GBWC, ils ont leur propre site web sur Internet qu'on peut aller directement sur gbwc.co.japan et ils vont tout avoir le règlement sur chacun des pays. Parce que chaque pays a ses propres règlements, mais dans la sélection, la première place nationale va être qualifiée pour les mondiaux qui se donnent au Japon en février. Donc, comment on évalue ça? C'est vraiment simple. Ils ont juste seulement trois critères. Ces trois critères-là, il y a le critère technique. Donc, est-ce qu'on est capable de construire un kit de manière vraiment clean? Il n'y a pas de défaut de fabrication. On voit pas les défauts de fabrication. On voit pas, genre, les erreurs de coupe ou ainsi de suite. Le deuxième, ça va être la finition. Donc, tout ce qui est peinture, tout ce qui est effet recherché. Donc, si on essaie de faire un effet métallique, un effet de braise sur un membre qui est coupé ou ainsi de suite. Et le troisième volet, c'est qui est le plus facile et le plus difficile à répondre, qui est le volet créativité. La raison pourquoi, parce que créativité, ça peut dire deux choses. Est-ce que tu es capable d'aller au-delà du concept ou tu changes quelque chose de simple et tu veux juste simplement reproduire la scène préférée dans une de tes séries préférées. Tu sais, c'est quelque chose qui est très ambigu. Mais moi, dans la direction que je veux pousser, c'est que je veux pousser au monde à être créatif, mais vraiment à aller au-delà du Gunpla. Comme je veux que le Gunpla, c'est pas juste une figure de robot, je veux qu'on puisse raconter une histoire.
Justement, par rapport à le fait de raconter une histoire, moi, Gundam, ça a été une série marquante pour moi parce que ça a été comme une série qui a été fondatrice pour d'autres, pour rentrer dans d'autres séries.
Oui.
Mecha.
Oui.
Donc, la question que je posais plutôt, c'est pour les autres séries mecha qui m'ont marqué, ça a souvent été des séries que moi j'ai rentré dans ces séries-là à cause de Gundam. Donc, est-ce que selon vous, Gundam, c'est encore la série de référence pour les mecha ou est-ce que, par exemple, d'autres séries comme Code Geass sont devenues des références, pas nécessairement Code Geass, c'est une autre série, ou est-ce que ça demeure encore Gundam qui est. La série de Transformers aussi, on peut reparler de ça.
Oui, oui.
Mais bon, allez-y, parce que bon, il y a une compétition aussi Bandai versus Hasbro.
Exactement.
Bandai, c'est Gundam, Transformers, c'est Hasbro. Donc, peut-être rentrer un peu dans ça.
Donc, pour de vrai, si on regarde dans le domaine animé, Gundam, on parle d'une vieille série qui fait plus que 45 ans que ça existe. Donc, c'est sûr qu'il y a toujours des nouvelles séries qui vont sortir au courant des années pour rendre la franchise encore vivante. Puis, tu sais, si on compare à d'autres séries de mecha, comme par exemple Code Geass ou Hōjō Senki, Kyōkai Senki, ou...
Kyōkai Senki, même... pas l'autre. Hōjō Senki, c'est pas la même chose.
Non, c'est exact. Ouais, c'est Kyōkai Senki.
Oui,
Kyōkai
Senki, ouais.
Ou même Pat Labor ou Macross.
Pat Labor, Macross, oui.
Exactement. Tu sais, si on compare ces séries...
Gunbuster
aussi. Si on compare toutes ces séries de mecha-là, sont toutes aussi excellentes qu'un Gundam. Il y en a qui sont meilleurs que Gundam. Mais l'affaire, c'est que qu'est-ce que Gundam a comme base comparé à ces séries-là? C'est que Gundam a du merch à lui-même. Donc, tu sais, c'est une franchise à lui-même. Donc, lui est capable de se supporter lui-même. Donc, c'est pour ça qu'à chaque année, il est toujours aussi relevant au niveau du marché. Si je prends, par exemple, Gunbuster, oui, c'est super bon, c'est super populaire, mais comme trouver du merch de Gunbuster...
Oui, mais justement c'est pour ça parfois tu sais je me dis est-ce que si existe du merch de Gunbuster ou d'autres séries comme Pat Labor comme des séries make-up probablement qui m'échappent en tête, il y en a encore qui sortent aujourd'hui des Gunbuster.
Oui, il y en a qui sortent encore de nos jours. C'est sûr que tu sais ça va juste dépendre aussi des licences puis comment s'ils sont capables d'avoir les licences pour pouvoir les reproduire.
Absolument.
Fait que, tu sais, si on compare à Gundam, c'est une licence qui est co-owned par Sunrise et Bandai, on parle d'une licence qui est complètement solide, puis qu'ils ont un groupe d'avocats qui font vraiment peur, que genre, peu importe ce que tu fais, c'est comme, n'utilise pas ce nom-là pour des mauvaises choses.
Ouais, non, il faut faire attention, justement.
Puis, en plus de ça, Gundam, c'est pas juste une franchise, c'est aussi une icône culturelle. Comme au Japon, puis ça, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant. Dans le domaine militaire au Japon, quand il y a une nouvelle technologie qui arrive, le terme spécifique qu'on doit appeler dans l'armée japonaise, c'est Gundam. Quand c'est une nouvelle technologie, ils appellent vraiment ça un Gundam. Quand c'est quelque chose de nouveau, là.
Wow.
C'est fou, là.
Non, mais c'est vrai que ça a eu un impact qui a transcendé le genre dans lequel il était. C'est pas juste simplement un passe-temps, ce n'est pas simplement un animé, c'est devenu quelque chose qui est devenu une référence dans son domaine.
Exactement.
Je crois que c'est ça qui fait que, comme, tu sais, on parle souvent de qu'est-ce que c'est le GOAT des animés mecha, mais comme pour moi, le GOAT des franchises mecha, c'est pour ça que c'est Gundam, c'est parce que c'est devenu une référence qui a transcendé son genre.
Exactement.
Là, une autre question que je voulais aborder, qui est un peu séparé de tout ça, c'est, je sais que vous faites une présentation demain sur ce sujet-là, mais peut-être pour nos auditeurs qui nous écoutent, parler de quelle est l'histoire de l'arrivée de Gunpla au Canada en particulier, peut-être passer aussi par les États-Unis, parce que quand même on a un voisin qui a eu beaucoup d'impact sur tout ce qui est marchandises canadiennes, mais donc peut-être faire une petite historique de comment est-ce que tous ces produits-là qui sont des produits japonais sont arrivés au Canada.
Donc, il y a eu deux gros impacts, actually. Le premier impact, c'était l'arrivée de Gundam Wings en 1995, où que les Japonais, c'était la première fois qu'ils ont décidé de faire une exportation mondiale de la série. Donc là, on parle auparavant 1979 à 1994, Gundam, c'était seulement là qu'au Japon. La seule façon de les avoir, c'était appeler quelqu'un au Japon qui t'amène les cassettes VHS avec les sous-titres jaunes super dégueulasses.
C'est la même histoire que pour l'arrivée des premiers animés.
Exactement.
C'est la même chose.
C'est la même chose. C'est juste que là, en 95, les Sunrise, en fait, c'est quoi? On va exporter ce média-là à l'extérieur du pays. Fait qu'ils ont essayé en Europe, en Amérique du Nord, et ils ont vu que Gundam Wings a vraiment bien fonctionné en Amérique du Nord. Puis beaucoup de personnes, des jeunes enfants qui sont de mon âge, voire même plus vieux, certains plus vieux, qui ont vécu ça, puis ont vu « Wow, c'est quoi ça, Gundam? »
Mais justement, comment est-ce qu'un produit comme ça, un animé, une série de télé japonaise est arrivé en Amérique du Nord? Parce qu'on sait l'histoire pour d'autres animés, par exemple, qui ont eu leurs droits rachetés par des diffuseurs ici pour pouvoir les vendre à des chaînes télé, pour pouvoir les diffuser. Comment est-ce que Gundam, justement, a fait son chemin sur les télés, les canaux canadiens?
Ah, ça, ben, en fait, ça a passé par à travers, il y a un groupe de production qui s'appelle Ocean. Et eux autres, c'était un groupe de doublage local canadien qui venait de Vancouver. Que eux, ils achetaient les médias japonais puis ils faisaient du doublage. Puis parmi les médias qu'il y avait, il y avait Gundam. Donc Gundam Wings, Gundam Seed et Gundam 00. Donc, beaucoup des acteurs qui font le doublage, c'est tous des acteurs canadiens. Puis grâce à ça, vu que ça a été vendu à YTV, au programme Bionix, on a pu voir Gundam à la télévision sur le câble. Et beaucoup d'enfants ont été exposés à ça. Puis là, ils ont vu « Wow, c'est vraiment cool! » Puis entre-temps, Bandai, quand ils ont essayé de faire la vente de Gunpla, au début, ça n'a pas trop fonctionné parce que, tu sais, les kits des années 90, c'était pas les meilleurs des kits. Il y avait beaucoup de défauts de production. C'était lousse. Mais ils ont fait un gros changement en 2008. Puis depuis ce jour-là, mais là, le monde, ils veulent avoir leur kit qu'ils ont vu dans leur enfance. Comme par exemple, quelqu'un qui connaît le Gundam Deathsight, qui a toujours aimé le Gundam Deathsight, le kit est enfin sorti. Comme, oh my God, je veux le construire pour le voir, pour vivre l'expérience. Et tu sais, on voit vraiment ce retour à l'enfance, le retour à la nostalgie avec du monde qui ont 30 ans et plus. Là. C'est quelque chose que tu sais, le monde recherche encore de nos jours.
Ouais, mais on sait justement que la nostalgie, c'est pas que les anciennes séries ou les anciens playmodes étaient meilleurs, mais c'est simplement que c'est quelque chose qui a marqué notre enfance.
Exact.
Donc, on voudrait les revoir. C'est quelque chose qui est assez courant à travers, peu importe le genre de passe-temps qu'on a. Quand j'étais allé vous visiter dans votre salle ici, on parlait justement du fait que vous offriez aussi, vous avez une plus grosse offre de marchandises que simplement des playmodes Gundam. Vous avez également, par exemple, des produits Pokémon, qui est une autre grosse franchise qui est évidemment la propriété de Pokémon, la compagnie Pokémon. Game Freak, je parle de Game Freak qui fait le jeu. Et on parle justement de qui seraient les concurrents de Bandai. Et maintenant, tu sais, quand on pense souvent, les gens ne pensent pas à Bandai. C'est intéressant parce que tu sais, Bandai, c'est un énorme nom au Japon.
Oui.
Mais quand on parle des producteurs et des constructeurs de jeux, de jouets, plutôt je dirais, de jouets, il y a deux grands noms qui sortent, c'est Hasbro et Mattel.
Ouais.
Hasbro, qui est par exemple les Transformers, et parmi d'autres, et Mattel, les Barbie, évidemment.
Oui, oui.
Donc, pour la question, je sais que vous êtes, on va être clair, là, commandité par Bandai Namco. honnêtement, dites-moi, comment est-ce que Bandai Namco se situe dans cette concurrence pour les jouets entre Mattel, Hasbro qui sont les plus gros, en fait.
Ouais, en fait, je pense que pour de vrai, Bandai est dans une position où ils sont vraiment secure pour de vrai. Parce que la raison pourquoi, parce que Bandai, si je compare, tu sais, Hasbro, oui, ils ont Transformers, puis ils ont G.I. Joe.
Oui.
Puis si je comprends, par exemple, Mattel, ils ont Barbies et possiblement, genre, autres poupées connexes. L'affaire, c'est qu'avec Bandai, c'est qu'eux autres, c'est un gros monstre géant qui ont plus que Gundam comme franchise.
Ouais, c'est multimédia. Hein.
On parle que Bandai, c'est vraiment un groupe multimédia. Donc, tu sais, on parle de quoi? Kamen Rider, les Super Sentai, les Power Rangers qui étaient auparavant owned par
Saban.
Par Saban.
Maintenant, c'est
À Hasbro. Oui. Que même là, genre, les Japonais, ils ont toujours encore cette licence-là, mais que Hasbro, ils ont terminé la licence.
Oui.
Fait que, tu sais, eux autres, c'est un gros choc. C'est un gros engrenage culturel, Bandai. On parle vraiment comme un gros marché. Donc, eux autres sont vraiment stables dans le marché du jouet. Là. Eux autres, ils ont pas peur de faire les affaires. Puis en plus de ça, c'est eux qui font les nouveaux standards, qui ramènent toujours les nouveaux standards puis les nouvelles technologies auprès des Gunpla. Comme beaucoup de nouveaux Gunpla qui sortent de l'année 2024-2025 sont plus articulés. Ils demandent pas de colle. Ils sont tous séparés en couleurs. Puis un enfant peut le construire sans avoir à avoir une expérience de base.
Moi, il y a un truc qui me surprend vraiment de Bandai. Honnêtement, là, je veux dire, là, c'est pas pour glaiser Bandai, là. mais moi, honnêtement, c'est moi, mon émission est spécialisée sur les jeux vidéo, notamment. Mais tu sais, on parle de beaucoup d'autres sujets, comme on peut le constater ici. Là, j'ai quand même des intérêts, des expertises assez variées par rapport à ça. Mais Bandai, j'ai toujours été fan de leur série, que ce soit Digimon, par exemple, qui a énormément marqué mon enfance, que ce soit pour la série animée, mais également tout ce qui est les jeux vidéo, les jeux Digimon World, les jeux Digimon Story. On a eu Digimon Story Time Stranger qui est sorti tout cette année, justement, en 2025, pas si longtemps que ça. Et le jeu, disons, qui est précédent dans la série Digimon Story, Sabretooth, qui a été un énorme succès. Comment est-ce que vous pensez, quelle est votre opinion en fait sur Digimon? Peut-être que c'est pas une question Gundam reliée exactement, mais quand même, si les gens qui connaissent Digimon savent que c'est un peu rendu une blague, là, que certaines chaînes de Digivolution, ça devient comme on parle comme d'un petit dinosaure mignon et tout, et là à la fin c'est comme un méca géant, là. C'est ça, là.
C'est comme un peu plus loin. Moi personnellement, sur Digimon, ok, ça peut sonner weird. Je suis peut-être un fan de Gundam, mais très jeune enfant, le tout premier animé que j'ai regardé, c'était Digimon. Puis c'était Digimon dub thaïlandais sur des vieux CD. Là.
OK.
Donc, tu sais, on parle que moi, j'ai été exposé à Digimon avec les chansons en japonais, les titres en japonais, le texte en japonais. J'ai grandi avec ça. Pour moi, comment je vois Digimon, comment ça s'est poussé avec Bandai, avec le merch, c'est que Toei ont eu... Toei Animation, Toei Studio... Et Bandai ont signé un contrat ensemble pour que... Donc, ils vont s'aider mutuellement. Donc, Toei, ils vont pouvoir acheter les licences pour créer des émissions qui sont sous licence de Bandai. Et Bandai vont pouvoir créer de la marchandise pour Toei. Fait que c'est comme une aide mutuelle entre les deux.
Ben, c'est un cercle virtuel.
Ouais, c'est ça. C'est un gros cercle. Les deux, ils s'entraident. Et pour de vrai... si c'était pas pour Bandai Namco et Bandai, on se cachera pas, ça a basically un peu sauvé Digimon. Parce que
oui, c'est vrai.
Digimon aurait pu mourir en 1998 à cause du ban des Tamagotchi.
Oui.
Mais Bandai, à cause qu'il sortait d'autres médias, donc des animés, des jeux, des figurines, ça a sauvé la série. C'est pour ça que Digimon est encore aussi populaire en 2025, ce qui me surprend encore.
non, honnêtement, moi-même, j'ai une histoire particulière avec cette série-là. Un film qui m'a énormément marqué, c'est le film Digimon Adventure qui est sorti en 2001. J'oublie toujours la date, honnêtement, pour cette affaire-là. Mais j'ai juste une cassette VHS.
Oui.
Et c'est tellement marquant parce que je me rappelle, il y avait Anya Anaconda là, dans l'intro qui m'a toujours freak out là, depuis que j'étais jeune. et aussi, dans le film, il y avait dans le film de la version japonaise, même, il y avait la chanson Kids in America et la chanson de Smash Mouth. Là, Hey now, All-Star.
All-Star,
ouais, il y avait la chanson All-Star dans celle-là. Et honnêtement, cette série-là, je sais pas pourquoi ce film-là m'a énormément marqué parce que, tu sais, j'avais regardé la série de Digimon Adventure J'avais aucun contexte et là, le film se situe comme en espèce de entre la série, la fin de la série Digimon Adventure originale et genre le début de la deuxième série
saison.
Digimon, Digimon avec les nouveaux personnages là, puis les personnages de la première série, Tai, etc., qui ont grandi. Donc vraiment, mais c'était fou à quel point ça a marqué. Tu sais, on réalise pas souvent, on regarde des films, on comprend pas, mais ça nous marque. Mais tu sais, pour revenir à Gundam, là, tu sais, je voulais faire mon plot Digimon, honnêtement, là, j'avais pas le choix. Si Bandai veut me commanditer, moi je suis preneur là. Mais justement, parlons de ce sujet-là. Vous avez dit plutôt que vous étiez commandité par Bandai quand je parlais avec vous. Comment est-ce que ça s'est établi cette relation-là et comment est-ce que vous comment est-ce que cette relation-là évolue au fur et à mesure?
Mais comment c'est cette relation qu'on a avec Bandai? Qu'est-ce qui s'est passé, c'est que quand on a été officiellement établi en 2015, on n'avait pas un lien direct avec Bandai. On avait un lien direct avec un autre sponsor qui est un distributeur local canadien qui s'appelle Plama Distributors, qui est le distributeur officiel de Gunpla et de marchandises japonais au Canada, qui sont basés à Vancouver.
Ils ont les droits sur le...
Exactement. Eux autres, c'est eux les distributeurs, c'est eux qui
Donc, ils ont un contrat d'exclusivité.
Exactement. L'affaire, c'est que quand eux autres, ils nous ont aidés, nous autres, on s'est mis comme objectif d'avoir GBWC Canada. On voulait pas avoir GBWC North America, on voulait avoir GBWC Canada.
Okay, ouais.
Donc là, nous autres, on a travaillé comme des défoncés. On a travaillé jour et nuit. On a presque pas dormi. Mais on a réussi parce que en 2017, on a officiellement eu GBWC Canada. Et en 2023, on a eu la plus grosse chance qu'on a pu avoir. Simon Lam, qui est un constructeur de Toronto, et a été nominé champion mondial pour GBWC 2023. Donc, ça a été le premier compétiteur...
canadien?
Premier compétiteur non-asiatique.
Ah, non-asiatique, OK.
Ouais. Parce que la plupart des gagnants des derniers GBWC, ça a été tous des pays asiatiques.
OK, ouais.
Là, le Canada a été le premier pays non-asiatique à gagner. Et en plus de ça, ça a été le... puis en plus de ça, pour 2024, notre runner-up, Ryan Lau, ça a été deuxième position pour le mondial aussi, représentant le Canada. Donc, qu'est-ce que nous autres, on a fait, c'est qu'on a réussi à ramener les talents de modèle réduit sur la scène mondiale.
Okay.
Et avec cette relation qu'on a avec Bandai ont 100% confiance avec nous. Mm-hmm. Donc, ils savent que tout ce qu'est-ce qu'on fait, mais tu sais, c'est pour le bien du hobby. Puis ils savent que nous autres, on est là juste pour promouvoir. On est juste une bande de nerds qu'on peut juste dire « That thing is cool ». C'est tout ce qu'est-ce qu'on fait.
Non, mais écoutez, si tous les bandes de nerds pouvaient se faire commanditer par la compagnie qui fait leurs affaires, là, honnêtement, ce serait spécial. Vous avez accompli quelque chose de vraiment spécial là, avec ça.
Exact.
Et justement, vous parlez du fait que d'habitude, les GPWC, c'est toujours gagné par des pays asiatiques. Quel est le pays qui domine le plus les GPWC?
En temps normal, ça a toujours été le Japon. Mais depuis ces derniers temps, si on regarde sur la scène des pays asiatiques, si on regarde sur les 5 dernières années, ça a été Hong Kong, la Chine, la Corée du Sud. Mm-hmm. Fait que tu sais, c'est tous des pays asiatiques qui ont accès au matériel vraiment vite. Puis tu sais, on parle du monde qu'ils sont capables de mettre facilement, genre 12 heures par jour là, à travailler sur leur kit. On parle des vrais malades mentales, ils dorment pas, là. Nous autres, on est à l'autre côté du continent puis on essaie de vivre notre vie.
Mm-hmm.
Mais on a pu démontrer sur la scène internationale que même un pays nord-américain est capable d'avoir un groupe de personnes aussi talentueux que ça sur la scène internationale.
Ouais. Et moi, quand j'ai vu, la première fois que j'ai vu un modèle Gunpla dans ma vie, c'est drôle parce que, tu sais, au début, quand on voit ça, on est comme, OK, c'est comme une figurine un peu plus grosse, là. On réalise pas à quel point, comme il y a un effort qui est mis en arrière de ça.
Exact.
Parce que, tu sais, depuis qu'on est jeune, on parlait plutôt des G.I. Joe et tout ça. On collectionne des figurines, on collectionne ce genre de matériel, les action figures, qui est un phénomène plutôt américain. Mais de ce côté-là, l'arrivée des Gundam sur la scène nord-américaine, ça a vraiment changé la donne sur le niveau de construction.
Oui, exact. Parce qu'auparavant, quand nous autres en Amérique du Nord, sur la scène des modèles réduits, comme je vous ai dit, c'était les avions, les chars d'assaut, les trains. Mais tu sais, on parle des kits qui sont vraiment vieux, qui sont vraiment compliqués à construire. Donc, tu sais, ça prenait de la colle.
Ouais.
Ça prenait beaucoup de temps et de patience à tout tailler, et ainsi de suite. L'arrivée des Gunpla, vu que c'était vraiment simple, n'importe qui peut embarquer. Mm-hmm. Que ça soit quelqu'un qui fait du Warhammer, que ça soit quelqu'un qui découvre la série, que ça soit un constructeur expérimenté qui essaie de qui veut découvrir un nouveau type de modèle réduit. Mm-hmm. Tout le monde a accès à ça. Ils sont juste partout.
Justement, vous avez mentionné Warhammer. Tu sais, c'est quelque chose que j'ai un peu comme vivoté autour sans adresser. Là, c'est un peu oui. comme, ouais. Mais tu sais, justement, je disais qu'il y a quand même un parallèle entre les gens qui aiment les figures Warhammer, qui passent des heures et des heures à peindre les figures oui. Warhammer, et sûrement et ceux qui sont passionnés de Gunpla. Mm-hmm. Peut-être il y a peut-être des hobbyistes de Warhammer là, qui ont voulu m'étrangler pour ça là, parce qu'ils sont non nous on n'est pas Gundam, on n'est pas ça, c'est tout ça. Mais tu sais, honnêtement, pour être honnête, les gens que je connais qui aiment les Warhammer, puis d'autres qui aiment Gunpla, ils s'entendent assez bien.
Oui.
C'est quelque chose qui a quand même un bon pipeline entre les deux. Hein. Mm-hmm. Il y a un bon pipeline de transmission. Quelle est, disons, la variété de hobbies que quelqu'un qui collectionne un Gundam peut avoir? Parce que, par exemple, pour les Warhammer, il y en a qui, par exemple, qui aiment juste peindre des Warhammer,
oh, oui.
qui peignent les figurines. Il y en a qui vont vraiment, qui achètent les livres pour jouer et tout ça. Mm-hmm. Et il y en a qui sont même à un niveau, qui font ça au niveau compétitif. Il y a des créateurs de contenu qui non seulement créent des figurines, peindre des figurines, mais également font des matchs gigantesques là,
oui, oui, oui.
qui durent des années parfois là, c'est ridicule. Mais pour Gundam, quel genre de passe-temps et de variété de disons de hobby qu'est-ce qu'on peut avoir? Est-ce que simplement par exemple le montage et la construction, est-ce que c'est juste le collectionner, ou est-ce qu'il y a aussi comme des jeux sur table qu'on peut faire avec?
Ça, pour de vrai, c'est vraiment la discrétion de la personne qui achète, parce que tu sais, maintenant, de nos jours, Bandai a annoncé pour 2026 qu'il allait sortir qu'est-ce qu'on appelle Gundam Advance War, qui est le tabletop de Gundam, qui est littéralement Warhammer, mais oui. sur un skin de Gundam, on se cachera pas.
C'est une licence pour imprimer de l'argent gratuitement. C'est
exactement. Tu sais, ils ont vu Warhammer, ils ont fait « OK, mais on va faire ça avec Gundam ».
Ouais.
Puis tu sais, ça, c'est juste un des exemples, mais tu sais, j'ai vu du monde, tu sais, des constructeurs expérimentés qui vont juste acheter plusieurs kits, ils vont mélanger, puis ils vont faire un autre kit complètement. Puis il y en a d'autres, qu'est-ce qu'ils font? Il y a beaucoup de monde sur YouTube, ils vont faire du stop motion avec des Gunpla.
Oui,
ils vont faire des vidéos de stop motion, soit qu'ils vont reproduire une scène iconique de la série, ou ils vont juste faire de quoi pour le fun. Comme une dernière vidéo que j'ai vue, c'était un Gunpla qui est en train de construire un autre Gunpla, puis là, ben, il essaie de trouver la tête, on cherchait partout, jusqu'au moment qu'il trouve, ah ouais, finalement, la tête était dans le pot à colle. Fait que ça a juste tout fondu. Fait que finalement, il n'y a pas de tête. On a dû prendre la tête d'un autre kit pour le faire.
Oh non! Oh non, mais justement, est-ce que c'est quelque chose que vous, par exemple, vous faites des espèces de Frankenstein Gunpla, ou est-ce que vous êtes comme puriste? Non, non. Peut-être la question, c'est, je dirais, est-ce que, comme de votre connaissance, les gens dans votre assaut là, de Gunpla Montréal, est-ce que c'est plutôt des puristes, genre, non, le kit, c'est le kit, il faut construire le kit comme ça, ou est-ce que c'est plutôt des gens, ah non, je vais prendre une pièce d'ici, une pièce là, puis je vais construire un Frankenstein Gundam?
C'est 50-50, pour de vrai.
Ah ouais,
c'est 50-50. J'ai autant de puristes que j'ai autant de personnes créatives. Comme moi, je fais partie des freaks créatifs. Je vais être honnête, là. Moi, un des derniers kits de compétition que j'ai fait, celui que j'ai vraiment mis le plus de travail, c'était un Noble Gundam. C'était un Gundam qui avait l'air d'une fille.
Mm.
L'affaire, c'est que je l'ai tellement modifié, c'est devenu Chun-Li de Street Fighter. Je l'ai emmené à la compétition.
Mais que Chun-Li, genre.
Exactement. J'ai gagné la compétition avec. Comme le
niveau. T'as des points pour l'originalité, j'imagine.
Exactement. Comme, j'ai eu les points pour l'originalité, puis en plus de ça, j'utilisais des matériaux que le monde pensait pas utiliser.
OK, ouais.
Comme, par exemple, Chun-Li est reconnu pour ses bracelets en métal, right?
Ses bracelets en métal, ouais.
Pour faire ses bracelets en métal, le monde aurait juste fait, OK, mais je vais juste prendre un morceau de plastique, on va essayer de l'aiguiser pour que ça soit pointu. Je ne suis pas cassé la tête, j'ai juste pris des têtes de stylo.
Ça wow.
C'est des cylindres parfaits.
Donc, comme les trucs pour la gomme à effacer, là, c'est ça?
Non, les têtes de stylo à billes.
Les stylos. Oh non, je pensais à
tu sais, un ball pen.
Créamine. Non, comme les stylos à l'intérieur des stylos, là, c'est comme le truc. Le
tu sais, t'as le tube dedans, puis t'as
le
tube en métal.
Oui, c'est le spring.
Pas le spring, c'est la tête où que l'angle qui distribue sur le papier.
Oh, littéralement, la tête de
l'angle. Ouais,
okay, c'est le truc qui ressort, là, ouais.
Ouais, les têtes de stylos, c'est des combes parfaits.
OK, ouais, wow.
Donc, tu sais, vraiment. Moi, je suis quelqu'un qui sort à l'extérieur de la boîte. Ouais, on essaie de prendre des matériaux que le monde ne pense pas utiliser, puis finalement, ça sort le résultat fini. Hein?
Non, mais c'est vraiment impressionnant de voir qu'on peut vraiment mélanger puis faire toutes sortes de...
Exact.
Certains diront que c'est... Ah ouais, c'est original, c'est de l'art, etc. D'autres diront, ah, c'est une cochonnerie, machin. C'est...
Ouais, exact.
Mais parlons un peu de la taille des Gundam maintenant, parce que c'est quelque chose que moi, j'ai remarqué de mes amis qui ont ce passe-temps-là. C'est que, disons, on parlait plutôt des prix de Gundam. Là, ouais, puis donc, un Gundam, par exemple, qui fait la taille d'une figurine, d'un action figure, donc environ ça de gros, là, c'est pas la même chose qu'un Gundam qui fait la taille d'un humain versus un Gundam qui fait la taille de ce mur là qu'on voit.
Oh, exactement. Ouais. Comme pour de vrai, chaque kit a ses propres prix parce que, tu sais, c'est par rapport au nombre, la quantité de plastique qu'il va avoir. Comme si je prends, par exemple, on va prendre le RX-78, qui est le modèle Gundam classique. Mmh. En high grade, qui est la ligne standard 1/144, qui est gros environ 6 pouces, non, disons 5 pouces, on parle d'un kit à 20$.
Okay.
Qui est très articulé, il y a du color separation, puis tu sais, il vient quand même avec beaucoup d'accessoires. Il vient qu'avec le beam rifle, le shield, deux beam saber, il y a quand même de l'accessoire. Si je monte à Master Grade, qui est 1/100, donc qui fait 18 cm,
okay.
On parle d'un kit qui a un squelette interne. Donc là, tu as déjà un autre niveau de complexité. Donc, ce niveau de complexité-là, c'est la raison pourquoi on parle d'un kit qui parle de 50-60$ et plus, parce que tu sais, il y a tout un niveau de complexité que Bandai ont travaillé pour le rendre possible. Tu sais, on parle des panneaux en métal qui s'ouvrent et qui se ferment quand on bouge les membres. Donc, quand les bras ils s'ouvrent, mais les panneaux de métal, l'hydraulique, il va bouger. Si on prend le plus cher, le Perfect Grade, qui est un 1/60, on parle d'un Gundam de 40 cm, on parle d'un kit à 300$. Mais pourquoi? Hydraulique, pièces de métal, circuit électrique, puis on peut avoir des kits, un kit d'adaptation à part, qu'on puisse intégrer des pièces robotisées. Donc, tu sais, on parle vraiment que tout dépendant de la quantité de plastique et toute la complexité qu'il y a pour mouler la pièce, plus que ça va coûter cher. Oui, comme je pense que le plus cher qu'on peut acheter au marché, on parle d'un Gundam 1/12 qui fait la taille d'un humain, un Gundam, un Gunpla de 5 pieds, on parle de 4000$.
Ouais.
Mais c'est normal parce que la quantité de plastique puis le type de moule qu'il faut avoir, c'est des moules qui vaut des milliers de dollars.
Justement, pour le quand il faut se procurer des matériaux, parce que évidemment il y a ce qui vient avec le kit. Mais si par exemple on veut ajouter du soi-même là, comme vous avez fait avec votre Chun-Li, le Mecha Chun-Li. Comment est-ce que vous faites pour vous procurer des matériaux spécialisés, justement? Comment est-ce que vous avez comme un commanditaire qui vous procure des matériaux à Gunpla Montréal, ou est-ce que vous allez juste vous acheter quelque chose à Rona? Comment est-ce que ça fonctionne?
Pour de vrai, c'est à la discrétion du constructeur qui va acheter. Comme si je veux avoir des plaquettes de plastique pour que je puisse faire de la déco pour faire des pièces d'armure, ben dans tous les magasins de hobby, comme par exemple des magasins de modèles réduits, des magasins de train, tu sais, des petits magasins de hobby, eux autres, ils ont tout le matériel qu'il faut. Comme, tu sais, tu peux avoir des sheets de plastique, tu peux avoir des pièces de durabond, des affaires comme ça. Si on construit quelque chose de plus gros, on peut aller à la quincaillerie, comme acheter du PVC, puis faire qu'est-ce qu'on veut avec, ou acheter genre des planches de plywood et du styrofoam pour faire, par exemple, un paysage. Comme pour de vrai, c'est à la discrétion du constructeur de qu'est-ce qu'il veut faire. S'il cherche à faire une scène, il va acheter le matériel nécessaire pour faire qu'est-ce qu'il veut. Puis, tu sais, on n'est pas obligé d'acheter. On peut même aller dans la nature faire des affaires telles quelles. J'ai déjà vu du monde. En fait, ça m'a vraiment inspiré. J'étais à un hobby show à Québec. Il y a quelqu'un qui est spécialisé en diorama. Il a refait le diorama du débarquement de Normandie.
Oh, wow!
Puis, qu'est-ce qui faisait que c'était spécial? C'est que lui... Vu qu'il était personnel militaire dans les forces armées canadiennes, il y avait l'autorisation pour ramener le sable de Normandie, ce qui était autrefois considéré comme défendu pour respecter toutes les morts durant cette bataille-là. Lui, il a eu la permission du gouvernement français et du gouvernement canadien pour pouvoir reproduire cette scène-là pour commémorer l'histoire canadienne quand ils ont participé à la bataille de Normandie.
Non, ça c'est vraiment impressionnant d'entendre ces histoires-là. Vous savez, c'est pour ça que je viens dans des événements comme ça, là, parce qu'on a toujours des anecdotes comme ça qui sont complètement fous, qu'on pense que c'est fake, mais c'est totalement arrivé, puis c'est incroyable. Donc, tu sais, on arrive à la fin de cet entretien. Je vais vous poser là, quelques questions de fin. Là. D'abord, Comment est-ce que vous voyez l'avenir du Gunpla, ben, le plus facile, l'avenir du Gunpla au Canada?
Pour de vrai, en ce moment, le Gunpla est vraiment bien établi. Depuis les, en fait, je veux pas me vanter, là, mais si c'était grâce à nous, les clubs, c'est-à-dire Gunpla Montréal, Site 6, qui est notre club sœur à Ottawa, Vampla, qui est à Vancouver, grâce à eux, on a pu montrer c'est quoi le hobby, puis le marché a vraiment grandi au Canada. Donc, on parle que le Gunpla est devenu un marché bien établi. Ça va pas disparaître d'ici quelques années. Tu sais, je pense que ça va encore rester encore quelques décennies encore. Ça va être encore relevant.
Les séries Gundam, il y en a encore aujourd'hui. Là. Moi, j'appelle le Gundam... Bon, moi, je suis comme un fan de Magical Girls dans les Marvel Shoujo. J'appelle Gundam le precure des mechas. c'est la même chose. C'est vrai. Ils en sortent encore, tu sais, depuis les années 70-80, depuis que le premier Gundam... Gundam, etc. Tout ce qui est sorti au début, c'est encore en train de sortir aujourd'hui.
Exact.
Quelle est votre opinion justement sur l'évolution des séries Gundam et les nouvelles séries? Je sais qu'il y en a par exemple qui sont, quand je vous ai mitigé, je vais pas mettre des idées dans la tête ou quoi que ce soit, mais par exemple, tout ce qu'il y a Gundam Seed ou IBO, toutes les nouvelles séries qui sont sorties versus les séries de la génération précédente et celles avant celles-là.
C'est sûr qu'en termes de série, là, c'est sûr que, tu sais, dans la production de Gundam, il y a deux types de fanbase qui sont très reconnus. On a qu'est-ce qu'on appelle les Universal Century fans, c'est-à-dire ceux qui sont fans de la série classique. Puis tu as ceux des séries nouvelles qui sont les Alternative Universe fans. Donc, tu sais, c'est deux groupes distincts, mais tu sais, on coexiste ensemble parce que, tu sais, peu importe la série, peu importe si que ça soit bon ou que ça soit mauvais, on est tous capables de dire... Ok, mais le mecha dans telle série, il est cool. Puis on est tous capables de dire oui, il est cool. T'sais.
Et dernière question pour vous, avant de clore cet entretien. Ça, c'est une question un peu plus drôle. Le rôle des Fujoshi dans la communauté Gundam. Parce que c'est quelque chose que même le fondateur de la série Gundam, Tomo, il en avait parlé. Il a dit que les vrais fans de Gundam, c'est les filles. C'est elles qui ont commencé tout le fandom de Gundam au début lorsqu'elles allaient au Comic-Con et machin. Et elles ont fait toutes les fanfics gays, etc. Là.
Oui.
Donc, vous, le rôle des Fujoshi dans Gundam, comment est-ce que vous voyez ça? Comment est-ce que ça, aujourd'hui, ça se manifeste?
C'est sûr qu'aujourd'hui, la façon comment ça se manifeste, ce phénomène-là, c'est un phénomène qui est quand même très fréquent parce que depuis les dernières séries, il y a canoniquement des couples homosexuels qui se sont formés dans différentes séries. Par exemple, Iron Blood Orphan, on a un couple gay.
Oui.
Witch from Mercury, on a un couple lesbienne, et ainsi de suite. Mais tu sais, ça, la raison pourquoi toute cette fanbase est là, c'est que ça a été eux qui ont pu essayer de développer un peu ce côté dérisoire, mais aussi authentique de chacun des personnages. Comme par exemple, Char Aznable et Amuri, qui sont les deux personnages principaux de la série classique de Gundam. Si c'était pas pour les Fujoshi, ben, tu sais, on n'aurait pas eu cette dynamique entre Char Aznable et Amuro. Parce que, tu sais, on parle d'un gentil, d'un méchant. Amuro qui est le gentil, puis Char qui est le méchant. Mais l'affaire, c'est que grâce à eux et la fanbase, Tomino s'est inspiré, donc là, dans Zeta Gundam, mais les deux sont meilleurs amis. Puis là, après ça, dans Charles Counter Attack, ils sont devenus les pires ennemis, mais. C'est pour d'autres raisons stupides. On ne veut pas trop embarquer.
Gundam, c'est un peu la série des raisons stupides là, pour toutes sortes d'affaires. Là. Parce que je crois qu'il n'y a pas grand monde qui regarde Gundam comme il regarde Legend of Galactic Heroes ou regarde une autre série mecha comme Dogram. Je ne sais pas si vous connaissez Dogram.
Oui.
Moi, j'ai adoré cette série-là.
Mais c'est sûr que
75 épisodes.
Ben oui. Mais c'est sûr que la politique de Gundam est encore présente parce que Gundam, ça a été celui qui a ramené beaucoup plus le côté réaliste et politique dans le monde des animés. C'est juste que au bout de la ligne, à travers la politique, la raison pourquoi la guerre a commencé, c'est pour des raisons stupides. Genre, Zeta Gundam, la raison pourquoi toute la guerre a éclaté, parce qu'il y a un gars qui a dit que « Ah, mais cet homme-là a un nom de fille. » Et ça crée une guerre civile.
C'est vrai, en plus, c'est vrai.
Ça crée une guerre civile.
Mais justement, par rapport à ça, peut-être une dernière question aussi, là, parce que là, vous avez piqué ma curiosité. Là. Je voudrais savoir qu'est-ce que vous en pensez. Le fandom de Gundam, tu sais, et ça, c'est vrai pour toutes les séries où il y a de la guerre présente et il y a des conflits présents et ce genre de choses-là, ou de la politique présente. il y a toujours un groupe du fandom qui prend le côté des entre guillemets des méchants.
Oh, oui.
Donc il y a les grands fans de Zion qui vont aller sur les plateformes et les fandoms et etc. Et qui vont dire ouais let's go Zion on est pour Zion. Donc vous comment est-ce que vous voyez ce phénomène là?
C'est un phénomène qui est assez intéressant parce que Gundam, vu que c'est très politique, ils sont pas, tu sais, c'est pas noir et blanc comme dans beaucoup d'animés. Ils sont vraiment dans une zone grise, ils sont vraiment très ambigus. Parce que, tu sais, on voit la facette de la guerre dans les deux côtés. On voit comment Zion se débrouille dans la guerre. On voit comment la Fédération Terrienne se débrouille dans la guerre. L'affaire, moi, qu'est-ce qui me fait peur, c'est que, tu sais, par exemple, Zion, dans l'histoire, où c'est que ça s'en va, à un moment donné, ça tourne vers du fasciste, littéralement comme du nazisme.
Non, mais justement, c'est pour ça que je pose la question.
Puis là où ça fait peur, c'est que... oui, c'est une partie de la fandom qui est très petite, mais tu sais, c'est souvent ceux qui ont la plus grande voix qui ont la plus grande influence. Puis tu sais, nous autres, même si vous êtes des fans de Zion, comme s'il vous plaît, genre comme on n'est pas des space nazis, là, on n'est pas des nazis là, qu'on promouvoit pour une race supérieure, on n'est pas là pour ça. Là. On est juste là pour dire les robots sont cool, puis oui, la guerre était peut-être justifiée, mais on n'est pas là pour dire que le nazisme, c'est bien. Là. Non, c'est clairement l'opposé. Là.
Merci beaucoup pour cette entrevue et j'ai hâte de continuer à aller à votre kiosque.
Excellent.
Et regarder vos panels. Merci beaucoup et bonne chance pour le reste de J'ai animé.
Merci pour cette entrevue et je vous souhaite bonne convention.
Par la suite de mon entrevue avec William, j'ai eu la chance de m'entretenir avec Adam, un autre membre de Gunpla Montréal, où il m'a montré des modèles de Gunpla. Voici la suite.
Bonjour tout le monde, je suis Bramon Rahman, de retour avec CFAC, ici à J'ai animé 2026. Je suis avec Adam, qui est... D'abord, présentez-vous, Adam, qu'est-ce que vous faites dans la vie?
Salut, mon nom est Adam, je suis un testeur de jeux vidéo.
Testeur de jeux vidéo?
Oui.
Oui, c'est parfait, c'est bon. Allez, vas-y.
Oui, je suis un membre de Gunpla Montréal. J'aide le club quand j'ai besoin d'aide. Et c'est tout.
Et votre position dans ce club?
Policy?
Non, position. Genre
position, je suis un membre, c'est tout. C'est juste aide quand j'ai besoin d'aide, dans les suggestions.
Justement, hier, j'ai fait une entrevue avec votre président, William. Il semble avoir beaucoup de bons mots à dire par rapport à vous. Quelle est votre histoire avec Gundam, Adam?
OK, pour Gundam, j'ai commencé avec Gundam quand j'étais jeune, 9 ans, quand Gundam Wing a commencé sur White TV, la première fois, le premier épisode, etc. C'était une grosse surprise pour moi. Completely obsessed. J'ai adoré beaucoup d'années. Mais la première fois que j'ai commencé avec Gunpla, c'est aussi quand j'étais 9 ans. J'ai trouvé par accident dans un magasin. J'ai pas connu les modèles. J'ai juste pensé que c'est un jouet. Mais quand j'ai ouvert la boîte, c'est comme, ouais, tous les morceaux sont ici, what the heck. J'ai construit tout avec mon père. Moi, j'ai adoré, mon père n'a pas aimé. J'ai continué on and off pour les quelques années. La prochaine fois que j'ai construit un modèle, c'est quand j'étais 13 ou 14 ans, j'ai oublié. Et après ça, quelques années après, j'ai trouvé un autre magasin qui vendait les modèles, mais pour un prix plus bas que les autres, parce qu'avant, les modèles sont vraiment chers. Vraiment chers.
On parle de combien en termes de prix?
Dans 2001, pour un HG1 sur 100 scale Wing Gundam, c'était 35$ autant.
35 en 2001, quand même?
Parce que c'est rare, ça.
Oui.
Mais c'est cher, là, parce que si tu fais avec inflation, ça fait comme 50-60$.
OK, ouais, quand même. Hier, j'ai fait une entrevue avec votre collègue William, comme je disais, votre président même. On a parlé de l'histoire de ce club, de comment est-ce que ça s'est établi. Aujourd'hui, je voulais vous parler plutôt concernant les modèles que vous avez ici en mise en vedette. Peut-être nous en montrer quelques-uns et parler sur ces modèles.
Okay.
Choisissez celui que vous voulez et que vous voulez mettre en vedette, en promotion. Allez-y.
OK. Je peux commencer avec Gundam Wing parce que ça, c'est...
Oui,
c'est
est-ce qu'on n'a pas le droit de le prendre et le montrer?
Tu peux.
C'est lequel? C'est celui-là, c'est ça?
Ça, c'est le Wing Gundam.
Oui,
c'est...
oui. Peut-être le montrer à la caméra. Oui.
Ça, c'est...
Donc, parlez un peu de... C'est quoi le... l'histoire de ce modèle?
OK, ce modèle, c'est un 1 sur 144 scale.
Mm-hmm.
Ça veut dire que si tu prends de 144 fois
la même chose.
1 sur l'autre,
ouais.
Ça va être la même hauteur que si c'est le vrai...
Monsieur, dans la série animée.
Oui.
Oui, voilà.
Et aussi, les HG, c'est comme, il y a le bon détail, etc. Mm-hmm. Real Grey, c'est une autre chose.
Oui.
Oui. Pour ça, besoin de pas de colle pour construire les modèles. Oui. Et aussi, celui-ci, notre ami qui est le premier président de club.
Oui.
Il a mis tous les détails. Et mm-hmm. c'est la même chose pour les autres.
Ouais.
Ouais.
Et donc, celui-là, je crois que tout le monde connaît ce modèle-là.
Ça, c'est le Turn A Gundam. Ça, c'est. Oui. OK, avec Gundam, il y a beaucoup des séries. Et ça, c'est un des autres. Ça, c'est originalement, c'est la série que c'est finale.
Oui.
Mais la compagnie Bandai, ils disent.
A continué à produire.
Oui, non, parce que.
Évidemment.
Tout le monde aime l'argent. Ça, ouais. Ça, c'est pourquoi.
Ouais.
C'est parce que c'est juste un.
Ensuite, on a celui-là. Je crois que.
Ça, c'est le Gundam X. Ça, c'est un Grade. Ça, c'est 1 sur 100. En scale. Ça, c'est moi qui ai construit ça.
Ah, wow, OK, ouais. Donc, c'est une position originale de...
Oui, beaucoup de plusieurs détails, aussi beaucoup plusieurs de articulations.
Mm-hmm.
Et aussi, avec ça, ça, c'est les collants dedans.
OK.
Oui, ça, c'est un plastique avec
impressionnant.
Un... Impressionnant. Oui. Et aussi, pour ça, ça, c'est de C Gundam X. Ça vient après Wing. Et aussi, cette année, c'est le 30e anniversaire.
30e anniversaire. Oui. Je crois que j'avais vu ça quelque part, en effet. Ça, je crois, est-ce que ça, c'est celle de la série originale? Oui,
c'est la série originale.
RX,
RX-78.
Oui, c'est celui, hein?
RX-78,
oui. Montrer la caméra, là, je crois qu'il y a plusieurs qui reconnaissent ce modèle-là.
Ça, c'est une reproduction d'original de l'année 80. Avec...
C'est bon.
Ils ont fait des modifications, bien sûr, mais comme ils ont séparé les tous les couleurs, parce que l'original, c'était... Une couleur, je pense que blanc, je ne me rappelle pas.
Mm-hmm.
Mais cette fois-ci, parce que c'est l'anniversaire et tout ça.
Oui, ça, c'est probablement le modèle le plus iconique que les gens reconnaissent quand ils pensent à Gundam.
Oui.
N'est-ce pas? Et un dernier, peut-être. Et un dernier, peut-être, montrer celui-là. Là,
Meteor, vraiment. Ça, c'est.
Peut-être, je ne crois pas qu'on veut le montrer là, mais peut-être je peux tourner la caméra un peu.
Je pense que j'ai aussi pour le prendre.
Ah, vous pouvez le prendre? Ok, ben, si vous pouvez le prendre, peut-être le montrer à la caméra. Oh, putain.
Ok, peut-être pas.
Ok, non, peut-être c'était une mauvaise idée.
Ok, mais c'est une bad idea.
Very bad idea.
Désolé,
au secours.
C'est ma faute.
Okay, non,
peut-être juste montrer le vaisseau.
Non, ça c'est.
Désolé, ouais.
Non, ça c'est un surprise. Ça c'est aussi. 1 sur 144.
Oui. Le météorin, ça.
Oui. C'est aussi rare, je ne suis pas trompé.
Ah oui?
Oui, non, parce qu'ils ont fait ça la première fois, je pense que 10 ou 20 années avant, parce que si Gundam Seed, c'est 20 années maintenant, je suis vieux.
Wow. Oui. Non, désolé vraiment pour c'est ce blooper.
Ouais, c'est un blooper. It's my fault.
Non, pas tout. Au moins, c'est pas moi qui a touché, là. Comme ça, j'aurais pas besoin de payer après.
Non,
là, c'est...
non, c'est pas brisé. Ça, c'est une bonne chose. Beaucoup de fois, si quelque chose tombe, c'est pas brisé. C'est
donc, juste... pour clore cette petite entrevue, puis ce display que vous nous avez fait, qu'est-ce que vous êtes venu faire ici à G-Anime? Quelles sont vos attentes pour cette convention?
OK, pour moi, je suis ici juste pour aider le club. Oui. Je suis avec Will, fait les panneaux. Mm-hmm. On a un à 17h plus tard aujourd'hui.
Oui, j'y serai, ouais.
Oui. Maintenant, on est aussi juste pour monter tout le monde cet habit. Et aussi, parce que c'est vraiment fun, c'est vraiment cool, ça.
Ouais, je crois qu'on va arrêter de toucher des modèles.
On va arrêter de toucher.
Mais merci beaucoup pour cet entretien, Adam. Et j'apprécie le temps que vous nous avez accordé pour nous montrer votre collection à Gunpla Montréal.